Popopienne, popopien, et tous les autres aussi, bonjour. Ça fait une éternité que je me demande pourquoi personne n'a encore songé à instituer une journée mondiale de la Belgique. Après tout, il y a bien déjà des journées du basset artésien ou du psoriasis vernaculaire, et si l'on mesure la hauteur de la contribution de la Belgique à la pop culture, ni le basset artésien ni le psoriasis vernaculaire ne peuvent sérieusement prétendre au podium. Hergé, Franquin, Edgar P. Jacobs, Greg, Maurice, Peyot pour ne citer qu'eux, et pour ne s'en tenir qu'à la BD en laissant de côté cinéma, art, plastique ou littérature, la Belgique, de ce côté-là, eh bien c'est l'Olympe. Et il arrive parfois qu'un des dieux de cette Olympe fasse un petit tour par le studio de Popopop, comme c'est le cas aujourd'hui où nous recevons la visite d'un scénariste devenu légende de son vivant, Jean Van Hamme, à ne pas confondre avec Jean-Claude Van Damme. Mon premier ne sait pas faire le grand écart entre deux camions lancés à vive allure, tandis que mon second n'est pas forcément très à l'aise si on lui demande de dessiner l'Argo Witch. Jean Van Hamme a tellement écrit de BD et de BD devenus mythiques qu'il faudrait un semi-remorque pour les contenir, voire deux si l'on veut Jean-Claude Van Damme pour une démonstration de kickboxing poids lourd. Non, c'est Jean Van Hamme, notre invité, et cette émission a pour titre 13 à la douzaine, et pop pop pop, c'est parti.
France Inter, pop pop pop, Antoine de Caunes.
Et bonjour Monsieur Van Hamme.
Et bonjour Monsieur de Caunes.
Et bienvenue dans Pop Pop Pop. Alors d'habitude j'appelle les invités par leur prénom, mais là j'ai envie de vous donner du Monsieur Van Hamme. Vous êtes vous êtes une légende de la bande dessinée. Comme Eddy Merckx, votre compatriote, est une légende du cyclisme. Et la première fois que moi j'ai rencontré Monsieur Merckx, eh ben je l'ai appelé Monsieur Eddy Merckx. Voilà. Est-ce que cette vénération presque enfantine vous embarrasse ?
Ben ça me vieillit. C'est tout. Ça me vieillit. Alors bon, d'habitude, je n'hésite pas, surtout dans le petit milieu bande dessinée, un nouveau directeur éditorial, n'importe quoi, qui a 30 ans de moins que moi. Je lui dis, écoute, j'ai l'habitude de tutoyer les gens du métier, surtout quand ils sont plus jeunes que moi. Et ils ne parviennent pas à sortir du Monsieur Van Hamme. C'est embêtant. Qu'est-ce que je dois faire?
Rien du tout. Et vous
de la chirurgie esthétique pour avoir l'air d'avoir 50 ans?
Non, prenez les choses comme elles sont, monsieur Van Hamme. Écoutez, vous méritez qu'on vous serve du monsieur Jean Van Hamme, parce que vos états de service dans le monde de la BD vous ont valu ce statut absolument légendaire. Depuis 1968, vous avez créé, pour ne citer qu'elle, trois séries absolument cultissimes, l'Argo Winch, Torgal et bien sûr 13, et un total d'environ 43 millions d'albums vendus, c'est ça?
Non, je viens de franchir les 44.
Et 44.
Je ne pensais pas par les chiffres, mais autant qu'ils soient.
D'accord, donc.
Correct.
Permettez-moi donc de dire monsieur.
Mais c'est bien parce que vous faites une diphtongue ouverte. Il y a trop de Français qui disent monsieur Van Hamme. Non, c'est Van. C'est une diphtongue ouverte. Vous ne dites jamais Eric Von Stroheim.
Non. C'est Van Hamme. Ça, c'est précisé. Voilà. Alors, dites-moi, 44 millions d'albums. Quand on vous surnomme le Midas de la BD, ça vous flatte?
Non, pas du tout. Parce que n'oubliez quand même pas que Midas a attrapé des oreilles d'âne.
Ouais.
Pour avoir critiqué Apollon. Mm-hmm. Et donc, j'ai pas du tout envie d'attraper des oreilles d'âne. Et en plus, cet idiot de Midas qui avait demandé à ce que tout ce qui touche se transforme en or, il pouvait plus manger parce que tout ce qui touchait, même avec le bout de la langue, ne passait pas. Donc Midas, je préférerais trouver quelqu'un d'autre.
D'accord. Enfin, grâce à Midas, on peut aussi changer un pot d'échappement en moins d'une heure. Bon, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler du dernier Espadon, le nouveau Blake et Mortimer, dessiné par Tone Berserik et Peter Van Dongen. Blake et Mortimer, auquel vous êtes fidèle depuis que vous avez repris le flambeau en 96 avec Ted Benoit. On va y revenir dans quelques instants à Blake et Mortimer. Au menu également de ce numéro de Pop 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 de fin d'année, un point sur les films à voir en 2022. Ce sera tout à l'heure avec notre chroniqueur Ronan Crowe. Mais d'abord, je voudrais savoir, Monsieur Van Hamme, duquel de tous vos bébés en BD, j'entends, vous êtes le plus fier. Et pourquoi?
Ce sera forcément un one-shot. Parce que quand vous faites une série, vous avez quelques bons albums, mais vous en avez certains, il faut bien se l'avouer, qui sont moins bons. Donc, même si ces séries ont bien marché, il faut avoir... Et il y a des one-shots dont je suis très content, mais il est certain que celui qui a été, je vais pas dire le plus amusant, mais le plus intéressant à faire, c'est Le Grand Pouvoir du Schninkel, avec Rosinski, qui s'inspire fortement un petit peu de l'Ancien Testament, un peu plus du Nouveau Testament, et avec lequel on s'est, tant le dessinateur que moi, énormément amusé, parce que c'est un pastiche quelque part, mais un pastiche qui termine un peu tragiquement, puisque le Nouveau Testament se termine également tragiquement.
Donc c'est pas un personnage en particulier.
Mais bon, Torgal ne me représente pas. Oui, je savais assez bien tirer à l'arc, mais pas aussi bien que Torgal. Quel est le personnage qui pourrait me ressembler le truc? 13 est un petit peu égocentrique parce qu'il s'intéresse qu'à retrouver la mémoire. Bah, disons Largo Winch.
Largo Winch.
Il est jeune, beau et riche, c'est-à-dire tout à fait moi.
Exactement, tout l'homme que j'ai moi, en face de moi en ce moment.
Ben voilà.
Bon, monsieur Van Hamme, quand je vous vois, je pense à Blake et Mortimer, bien sûr, et comme Blake et Mortimer, c'est l'Angleterre des années 40, 50, eh bien moi je pense à Brian Ferry et à sa reprise de ce morceau You Do Something to Me que je vous propose d'écouter tout de suite pour lancer cette émission.
Something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me live neath your spell. That nobody else could do.
Brian Ferry, You Do Something To Me, voilà le morceau qui nous propulse dans l'univers de Blake et Mortimer, un univers que nous allons évoquer dans un instant avec Jean Van Hamme, notre invité. Monsieur Van Hamme, je voudrais d'abord faire un rapide flashback qui pourrait réconforter nos auditeurs qui ont peut-être en tête un jour de changer de vie. Avant de devenir un des scénaristes les plus célèbres au monde, vous aviez une toute autre vie. Vous aviez démarré dans la vie comme ingénieur commercial et votre avenir s'annonçait des plus brillants lorsque vous avez décidé de tout plaquer pour vous consacrer à la BD. Vous sentiez cette nécessité impérieuse de raconter des histoires au lieu de vous les raconter à vous-même ?
C'est une décision qui a une double cause, évidemment. J'avais ingénieur commercial, oui, j'adorais voyager, je choisissais donc des sociétés multinationales qui allaient me permettre de voyager. D'abord des Américains, USS Steel, et ensuite le groupe bien connu, Philips, Je sais qu'on ne donne pas de marque, mais enfin bon, on peut en parler. Et j'ai voyagé pendant, pour Philips, pendant 5 ans dans différents pays. Et puis, on s'est trompé sur moi. On a cru que j'étais bon parce que j'écrivais de très bons rapports. Mais en fait, je suis nul en commerce. Mais ça, je ne l'ai jamais dit. Donc, on m'a nommé directeur des appareils ménagers de Philips en Belgique. Et là, je me suis dit, mais ça va être l'horreur. C'est, je vais finir comme directeur général. Je serai membre de tous les clubs Rotary, etc. J'écrivais déjà des bandes dessinées un peu en amateur, enfin tout à fait en amateur. J'étais donc un petit peu dans le métier. Je me suis dit, mais au fond, mon vrai rêve, c'est ça, c'est devenir un raconteur d'histoires à temps plein.
Et vous vous souvenez du moment précis où il y a eu ce déclic ? Vous êtes basculé, vous avez basculé
de l'un à l'autre ? Non, le déclic est venu quand on m'a proposé de devenir directeur général adjoint de Philips au Mexique. Mexique, qui ne sauterait pas de joie. Mais je me suis dit, si j'accepte, je suis fichu, parce que là, revenir en arrière, je pourrais pas. Donc, j'ai automatiquement donné ma démission. On était un 1er avril, ça tombait bien. Et je suis parti, bien entendu, sans Golden Shake Hands.
Eh bien, écoutez, la BD y a gagné ce que le Mexique y a perdu. Il y a plusieurs moyens de raconter des histoires. Le roman, vous en avez écrit 9 par ailleurs. Le cinéma, la télévision, vous avez fait 3 téléfilms et 2 séries télé. Le théâtre, mais vous avez tout de suite choisi la BD à une époque où elle faisait la transition, comme on dit aujourd'hui, en s'adressant aux enfants et aux adultes.
Mais j'ai commencé par le roman. J'ai commencé par le roman, des romans Largo Inch. J'ai passé l'été 76, où paraît-il il a fait très chaud, je l'ai pas senti, à écrire le premier roman Largo Inch. J'ai envoyé à 10 éditeurs français et j'ai sauté sur le premier éditeur qui a dit oui. Il y en a eu 6 autres par après. Et je ne suis pas sûr d'avoir choisi celui qui était le mieux spécialisé dans ce genre de roman d'aventure. Bref, ça a marchoté, sans plus. Bon, à l'époque, mon hypothèque sur ma maison était de 14%. Vous voyez la différence entre aujourd'hui. J'avais 2 enfants à nourrir, enfin bref. Et le plus merveilleux des hasards a fait que, outre la femme de ma vie, qui est toujours la femme de ma vie, j'ai rencontré cette année-là, en 76, est arrivé un joyeux Polonais qui essayait de faire de la bande dessinée pour les éditeurs franco-belges, qui m'est tombé dessus, qui s'appelait Rosinski. Je l'ai reçu un dimanche, il parlait pratiquement 3 mots de français. Je l'ai reçu un dimanche et je lui ai montré 2 pages de scénario que j'avais fait pour une autre histoire, et je lui ai dit, dessinez-moi ça pour demain. Il l'a fait, il a passé la nuit à le faire. Il avait un dessin qui ne relevait d'aucune école. Vous savez très bien que chez nous, France-Belgique, on essayait soit d'imiter Hergé, soit d'imiter Franquin. Là, c'était hors norme et très puissant. Je l'ai pris par le bras, j'ai été voir l'un de nos éditeurs, j'ai dit, je veux faire une histoire avec lui. Et ça a été Torgal.
Et le reste, c'est de l'histoire. Vous avez un point commun, je repense moi à Blake et Mortimer. Ils ont 75 ans tous les deux et pourtant ils ne sont jamais essoufflés. C'est cette magie de la BD qui la rend si séduisante à vos yeux.
Ben écoutez, élevés par Tintin et par Spirou, qui ne vieillissent jamais. Je suis très habitué à avoir des personnages ou voir des personnages qui ne vieillissent jamais. Alors que, fait curieux, bon, j'ai fait leur connaissance en 1946 avec le premier journal Tintin, qui coûtait 3,50 francs belges à l'époque, que mon père m'avait généreusement donné, j'avais 7 ans et demi, et ce sont des héros qui ont l'âge de mes parents, ou de nos parents. Et malgré tout, ils étaient attachants. Écoutez, ça commence très fort, le secret de l'Espadon, c'est la guerre, 3e guerre mondiale, vous avez un terrible chinois qui a plein de dents, qui dans un micro hurle qu'ils ont gagné la guerre, vous voyez Paris, Londres, Rome complètement en ruine, tout ça 2 ans après la fin de l'occupation. Réellement, ça, il y en a une seule page. Une seule page, et il a fallu 2 ans et demi de journaux Tintin pour arriver à la fin de l'histoire. Mais imaginez dans les cours de récréation, mais on ne parlait que de ça. On ne parlait que de ça. On parlait aussi de Corentin, bien sûr, on parlait de Tintin, mais on parlait, c'est quoi ça, Black et Mortimer? Mais c'est extraordinaire.
Cette magie de la BD, on en parle ensemble dans la suite de ce pop-up-up spécial en compagnie de Jean Van Hamme, juste après The Fantasy Life of Poetry and Crime. C'est un titre signé Pete Doherty.
chime. Bells they chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High plains drift, slice shape shift across the maritime. In the estuary there's a clue to find in the fantasy life, poetry and crime. Hold Normandy and Saint Maritime in the fantasy life, poetry and crime. Begun this too weirdly in the estuary. Oh, there's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Chainsaws grind in the summertime. Bells they chime.
France Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Et Charline Roux. Charline Roux qui vient de faire son entrée, tel un espadon furieux. Mais bonjour, Charline.
J'ai le nez beaucoup moins fin qu'un espadon. Bonjour.
Charline, je vous présente Monsieur Van Ham.
Enchanté.
Enchanté aussi. Alors, Charline, ravi.
Charline, vous tenez entre vos mains le dernier espadon, enfin, le nouveau Blake et Mortimer, intitulé Le dernier espadon. Pitchez-le nous, même si le pitch n'est pas un terme très adapté à l'époque en question.
Non, puisqu'on est en 1948, le capitaine Francis Blake et le professeur Philip Mortimer, après avoir mangé un roast beef trop cuit, doivent accomplir une mission des plus périlleuses, sauver Buckingham Palace d'un terrible complot, imaginé de concert par l'IRA et des nazis. Mortimer est sommé de se rendre au Pakistan pour modifier le code d'activation des espadons, des avions amphibies supersoniques stockés dans une base militaire. Blake, qui vient de prendre la direction du MI5, doit lui partir pour l'Ulster. Mais revenons à l'espadon, dont le secret constitue le tout premier volume de Blake et Mortimer, publié en planche hebdo à la fin des années 40. C'est ce drôle de dangereux avion qui vous a fasciné au point d'avoir envie de vous replonger dans l'univers de Blake et Mortimer.
Ben oui, comme j'expliquais à Monsieur Antoine.
Alors appelez-moi Antoine, je vous en prie. Non, ah, vous m'embarrassez.
Ah bon, d'accord,
Antoine.
Que depuis 75 ans, chaque fois que quelqu'un croise Mortimer, ah, le célèbre inventeur de l'espadon. Ouais. un peu ras-le-bol de cette déification et j'ai voulu les les rendre plus normaux. Et Blake froidement va dire à Mortimer, mais franchement, est-ce que vous êtes vraiment fier d'avoir inventé un instrument aussi dangereux, etc. Et j'en profite pour critiquer un peu la cuisine américaine, puisqu'il dit, écoutez, j'ai déjà assez de mal à avaler le roast beef trop cuit, où Blake se rend compte que finalement, être le patron de contre-espionnage, c'est de passer à l'état de super flic. Ouais. Bien, donc on essaye de le désacraliser un petit peu. Je désacralise tout à fait la cuisine anglaise. Ah oui, j'ai travaillé 2-3 mois à Londres, donc je connais.
Vous n'aimez pas la viande bouillie, donc.
C'est bien de les désacraliser un peu, en ce sens qu'ils deviennent plus humains. Mm-hmm. Ils étaient des figures un peu figées, quelque part, absolument. Comme Orlik est figé. Mm-hmm. Dans Orlik, certains ont essayé, notamment votre ministre, de raconter la biographie non autorisée de... je l'ai dit que je sais pas si j'étais tout à fait d'accord avec lui, mais bref. Donc, ils deviennent quelque part un peu plus humains, mais on ne sait toujours pas ce que... D'abord, le secret de l'espadon, c'est quoi ? On ne le sait pas.
Non ?
C'est quoi le secret de l'espadon ? On sait pas comment ils volent, on sait pas, à part un moteur, je suppose.
On sait qu'il ne peut pas atterrir, a priori. Dans la première version...
Il n'atterrit pas, mais on le voit très peu dans la première version. On les voit sortir de l'eau en évitant les mines des méchants jaunes, et puis on les voit attaquer Lhasa, qui est à 2000 km de là. Ouais.
Vous dites que quand vous avez découvert le secret de l'espadon, à un très jeune âge, vous avez été frappé par le réalisme de cette aventure et que vous avez été terrifié par ses premières pages. Est-ce que terrifier le lecteur, c'était aussi une de vos ambitions avec ce nouveau volume dont les premières pages débutent quand même par une petite hécatombe ?
Évidemment que c'est assez terrifiant. J'avais déjà feuilleté des albums Tintin, c'est le seul personnage qui existait en album à l'époque, et où, paraît-il, c'est de la légende, mais tous les Belges vous diront la même chose, c'est là où on a appris à lire, c'est dans les albums Tintin. Il y a une certaine, mais la brutalité est extrêmement douce dans les Tintins. Ici, c'est d'une brutalité costaude, vraiment costaude, explosion, destruction. Bon, c'est vrai que dans Jacobs, on ne voit jamais de sang.
Bon, là, on en voit dans le dernier espadon.
On ne voit jamais de sang. On ne voyait pas non plus des morts, sauf le traître jaune qui était donc un bon, puisqu'il travaillait pour les Anglais, qui a été abattu. On le voit pas être abattu, on l'entend au micro.
Est-ce que, Jean Van Damme, est-ce que vous avez l'impression, 75 ans plus tard, et donc 25 ans après avoir repris Edgar P. Jacobs, que d'une certaine manière, vous avez bouclé la boucle ?
Non, pas du tout, parce que l'aventure, pour moi, est nouvelle. Je ne vois pas boucler la... Non. Pas du tout, au contraire, j'étais ravi. Mais pour moi, Blake et Mortimer sont des personnages immortels. C'est comme Cyrano, c'est comme le Roi Lear. Je suis un comédien à qui on demande d'interpréter Jacobs. Certains vous diront, non, je ne veux pas faire du Jacobs, je veux faire du Blake et Mortimer. Je reconnais que dans ce dernier espadon, j'ai peut-être fait plus du Blake et Mortimer, puisque je les transforme un petit peu. Je n'ai fait moins de Jacobs. J'ai essayé de faire du Jacobs avec l'éthique, avec les naïvetés. Il y a de grandes naïvetés dans les aventures de Black et Mortimer.
Black.
Et de Black Bischoff. Ici, j'ai peut-être plus penché vers Blake et Mortimer que vers Jacobs, parce que je ne crois pas que Jacobs aurait raconté l'histoire comme je l'ai raconté ici.
Non. Bien sûr. Rendons quand même hommage au passage au travail de Berserik et Van Dongen, qui font
formidable.
Un remarquable boulot, dans le pur respect d'une ligne claire, comme toujours bien plus théâtrale que cinématographique. Vous avez un petit faible toujours pour la ligne claire, c'est quoi ? C'est un souvenir d'enfance peut-être ?
N'ayant strictement aucun sens de l'humour, je me suis essayé, parce qu'on me l'a demandé, j'ai essayé de faire... Franquin m'avait demandé de faire du Gaston, Robin m'avait demandé de faire du Boulet Bill, que j'ai jamais réussi à faire. J'ai fait du Modeste et Pompon, je suis nul dans ce domaine, donc j'aime bien les histoires humoristiques, surtout dessinées ou à la Grecque ou à la les Achille copains Caron. De Cauvin.
Ouais.
Mais je préfère quand même lire des histoires réalistes.
Alors, puisque vous parliez d'humour et puisque vous en avez ajouté à ce nouveau volume, et ben dans les excellents ressorts de comédie de cette nouvelle aventure, il y a Marge, qui n'est d'ailleurs pas que drôle, hein, qui est aussi extrêmement dévouée quand il s'agit de sa patrie. Comment est née cette secrétaire, pas toujours amène, passée par la WAF, soit la Women's Auxiliary Air Force ?
J'aurais dû l'inventer plus tôt.
Elle est géniale.
J'aurais dû l'inventer plus tôt. Elle est géniale. J'avais donné... tout au début de l'affaire Francis Blake, un adjoint à Blake, mais j'aurais dû aussi lui donner... C'est, pour moi, c'est le rêve comme secrétaire. Elle écrase tout sur son passage. Elle n'hésite pas à interrompre un conseil de ministre au 10 Downing Street pour donner un petit mot important à Blake. Et elle est prête à se dévouer pour l'Angleterre et pour le roi.
Corps et âme,
c'est le cas de le dire.
Bien sûr. Dernière petite question. Entre Blake, Mortimer et Ulrich, vous préférez lequel ?
Mais c'est difficile de ne pas préférer Mortimer, qui est le... Certains vous diront Ulrich. Mais Ulrich joue... presque toujours le même rôle. Un, il se déguise. Deux, il travaille pour un méchant.
Trois,
il rate à la fin. Ici, il réussit, bizarrement. Il réussit, il part avec son chèque. Mais, bah, oui. Mais Blake est relativement en retrait. Même dans l'affaire Francis Blake, finalement, c'est Mortimer qui part à sa recherche et qui fait le boulot. Mortimer, c'est le sanguin, c'est lui qui fait véritablement l'aventure, même si dans plusieurs albums, Blake a un rôle apparemment égal à celui de Mortimer. Mais Blake n'est pas rigolo. Il n'est pas extravagant.
Sérieux, ouais. Il est rigide, ouais.
Mortimer peut aller jusqu'à une certaine forme d'extravagance. Donc forcément, je préfère Mortimer.
Très bien. Blake et Mortimer, le dernier espadon, c'est édité chez Dargo. C'est évidemment un cadeau à mettre sous le sapin de toute urgence. Et nous sommes toujours avec Jean Van Damme. Ne bougez pas, monsieur Van Damme, s'il vous plaît. C'est le moment du pop break dans Pop Pop Pop. C'est l'heure des pop news.
Je le dis et je le répète, compte à rebours enclenché, chaque jour jusqu'à Noël, une petite sélection spéciale. George Ezra, chanteur anglais à formidable voix de basson et qui avait connu un gigantesque succès avec sa chanson de voyage. George Ezra, donc toujours doté de son formidable organe, joue lui aussi le jeu de la chanson de Noël, la sienne, enfin sa reprise, s'appelle « Come on home for Christmas ». Ce titre de George Ezra fait partie d'un projet Amazon Music de Noël sur lequel on retrouvera aussi Norah Jones ou encore Camila Cabello.
Encore un beau livre à glisser sous le sassin. Enfin, pour les plus téméraires d'entre vous, bien sûr.
Hello, Sydney.
Hi, who is this?
You tell me.
Titre de ce gros ouvrage, Slashers. Alors attention, ça va couper. Hein. Une encyclopédie signée Marie Casabonne, Claude Gaillard, Guillaume Le Dicez et Fred Pizzoferrato. Dès la fin des années 70, le succès de Halloween de John Carpenter engendre une vague de films à tueurs masqués dont l'unique activité est d'assassiner des adolescents. Et on les comprend. Le slasher est à la mode et fait de la mise à mort, un spectacle. Mieux encore, il introduit le concept du croque-mitaine sous différentes formes et devient une figure de la culture pop, et c'est cette figure que le livre explore. Tremblez, oh, c'est édité chez Vent d'Ouest.
Une curiosité à découvrir ce soir dans vos télés, une curiosité signée Matthew Vaughn, le réalisateur de Kingsman et de Kick-Ass, ça s'appelle Stardust, le mystère de l'étoile, un film de 2007 qui rassemble, excusez du peu, Charlie Cox, Michelle Pfeiffer, Rupert Everett, Sienna Miller, Henry Cavill et Ricky Gervais, l'histoire de Tristan, un jeune candide qui convoitait la plus jolie fille de Wall, son petit village anglais. Il s'engage à lui rapporter en gage de son amour une étoile tombée du ciel. Pour honorer sa promesse, il fit ce que personne n'avait encore jamais osé. Il escalada le mur interdit et pénétra dans le royaume magique de Stormhold.
Excuse me, have you seen a fallen star anywhere? We're in a crater. This must be where it fell.
Yeah, this is where I fell.
You're the star.
You're the star? Really? Oh, wow.
You've seen stories of magical worlds, wicked witches, flying pirates, and dashing princes.
Please settle down. I have the worst headache.
Can I just say, I beg to differ?
L'étoile tombée du ciel à l'étrier de Claire Danes, le pirate de Robert De Niro et Stardust, c'est ce soir à 22h20 sur Arte.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Yes, that's me.
C'est Ulrich qui veut se faire passer pour...
Non, c'était plutôt Blake.
Ah ouais, enfin, j'avais pas la nuance.
C'est vrai qu'il y avait un petit peu d'Ulrich dedans. Bon.
C'est un peu fourbe, c'est pour ça que
oui,
je me suis
dit... Oui, c'est un petit peu fourbasse, oui. Et vient de nous rejoindre, justement, Ronan Crowe, qui...
Vous dites justement, parce que je suis votre Ulrich, c'est ça, parce je reviens vous... toujours.
Parce qu'on parlait de fourbe. Parce que
ah, c'est ça, c'est fourbe.
Fourbe, fourbasse même.
Le sens de l'accueil. Bah oui,
évidemment.
Ronan, qui pour nous a fait un saut dans le futur. Vous êtes allé en 2022 dans les salles obscures. Il y a donc toujours des salles obscures 2022 déjà.
Oui, oui, le cinéma a continué en 2022. Il a eu une année complète avec vraiment des salles pleines, les gens ravis, des foules devant les... Bon évidemment, je ne suis pas vraiment allé en 2022, mais je vous ai ramené le meilleur de ce qui va arriver au cinéma. Le cinéma en 2022 va nous aider à avoir une meilleure vie, va nous apprendre les principes de la vie, et le premier, apprendre à décrocher de son téléphone, à arrêter d'être constamment sur son téléphone.
Y compris dans les salles de cinéma.
Y compris dans les salles de cinéma. Celui qui va nous aider, eh ben c'est lui.
Quel est ton film d'horreur préféré ?
Vous l'avez reconnu, il s'agit de Ghostface. Scream arrive dès le 12 janvier au cinéma. Alors je dis bien Scream et non pas Scream 5, puisque je vois très attentif Antoine.
Ils en étaient déjà au 7, moi.
Eh ben non, ils en sont au 5. Mais en fait, celui-ci s'appelle Scream, le retour du tueur au téléphone. Je ne sais pas, Scream, ça vous parle, Jean Van Damme ? Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du... Alors,
enfin, s'il s'agit d'un titre de film ou d'une série...
Exactement, c'est un film culte des années 90 qui a donné une saga, un film d'horreur. Et ça va nous rappeler qu'il faut porter le masque, hein, évidemment, comme le tueur Ghostface. Il y en a un autre qui porte le masque.
Et respecter les gestes barrières.
Et bien sûr, alors dans Scream, il faut vraiment respecter les gestes barrières. Il y en a un autre qui porte le masque et qui revient, bah, c'est lui.
La peur est un outil. Cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement.
C'est Robin.
Ah, c'est mignon parce qu'il faut le dire. En fait, Charline souffle à Antoine pendant le son de lui dire ce que c'est.
C'est Batman.
C'est le retour de Batman. Batman revient sous la caméra de Matt Reeves avec Robert Pattinson. On nous annonce un Batman encore plus dark que les précédents. Alors, encore plus dark, ça doit être carrément un écran noir. Ouais. Batman, ça vous parle, les comic books, Jean Van Damme?
Quand même. J'ai travaillé aussi aux États-Unis.
et Batman, c'est votre super-héros préféré?
Ben, j'en suis resté à Superman.
Ah, vous préférez Superman,
resté à Superman.
Plus slip et collant.
C'est la même écurie.
Les cabines téléphoniques, etc. Donc,
plus positif, donc. Moins torturé.
Oui, pareil. Spider-Man, comme disaient nos petits-enfants. lui, il a eu des parents assassinés.
Tous, globalement, familialement, c'est compliqué. Ouais. Donc Batman revient sous les traits de Robert Pattinson. Ça va être noir, ça va être très complexe. On attend, on ne sait pas ce que vaut Pattinson sous le masque de Batman.
Ça va être super.
Ça, c'est vous prenez non, les paris, Charline. En France aussi, on a aussi des monuments et le cinéma français va les célébrer. Alors déjà, Jean-Jacques Hano avec Notre-Dame brûle. On va faire un film sur l'incendie de Notre-Dame.
Ah bon?
Oui, oui, vous voyez, c'est pour ça que je suis là, Antoine. Bon, d'accord. Non, bon. Et aussi un autre film qui va célébrer un monument, et cette fois-ci un vrai monument, le film d'Olivier Dahan, sur Simone Veil, Simone le plus beau, le voyage du siècle, avec Elsa Zilberstein en Simone Veil. Ça va être évidemment un événement, puisque c'est le retour d'Olivier Dahan après La Môme, au biopic. Le retour de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on n'est pas si sûr que ce soit une bonne chose, mais aussi le retour de gens qu'on adore. Le Palmacho revient au cinéma avec les vedettes, donc on va rire quand même en salle. Et puis, il y a aussi un monument qui va revenir. Et là, c'est pas les Français qui l'ont traité, c'est l'Anglais Joe Wright qui donne le retour d'un des plus grands monuments littéraires, lui.
He's here.
Cyrano?
Cyrano.
Cyrano. Pleasure to meet you, Cyrano de Bergerac.
You're a freak. Freak.
Cyrano de Bergerac.
Exactement, Cyrano de Bergerac, une comédie musicale adaptée de Cyrano avec en Cyrano Tyrion Lannister, alias Peter Dinklage, l'acteur de Game of Thrones. C'est une comédie musicale adaptée de Cyrano par Joe Wright. Ça va être complètement dingue. C'est l'un des événements du printemps, ce fameux Cyrano en comédie musicale, la réadaptation du mythe littéraire français en comédie musicale.
Ça peut plaire à Monsieur Van Damme parce que je sais que vous aimez beaucoup Cyrano.
Mais je trouve que Cyrano, c'est une des pièces les plus totalement pièce de théâtre que je connaisse. Ouais. Ça bat même Shakespeare. C'est formidable, Cyrano. On y trouve tout. Tout. Au grand dam, d'ailleurs, de son malheureux auteur qui a essayé par la suite de retrouver le même succès.
Et donc là, ça devient une comédie musicale, un film grandiose. L'autre monument, ben là, c'est les Américains qui vont s'en charger. C'est un monument de la musique. C'est lui. Il s'agit bien sûr de Jules, évidemment. Non, il s'agit d'Elvis.
Donc c'est un Australien à la manœuvre.
Oui, c'est un film américain avec un Australien à la manœuvre.
Pas du tout reconnu sa voix, hein, je suis désolé.
Le Elvis, voilà. Elvis de Baz Luhrmann. Alors Elvis en question va être incarné par un jeune acteur qui s'appelle Austin Butler. On ne sait rien du film. Le film fera l'événement, on l'espère, peut-être à Cannes. Ce sera un biopic par Baz Luhrmann. Et je sais que Charline, vous aimez énormément le réalisateur de Moulin Rouge.
C'est ma passion.
Donc on attend vraiment un film flamboyant. À Cannes également, on espère retrouver cette musique-là.
Ok Maverick.
Exactement, Top Gun 2, Tom Cruise. Ça fait un an et demi qu'on attend la sortie de ce film. Il est prêt. Tom Cruise va revenir avec son gros avion dans Top Gun 2. Ce sera pour la fin du printemps 2022. Et puis évidemment, vous me connaissez.
Je vous en laisse encore un.
Je vous ai ramené un cadeau, mais là, qui est maintenant le film quasiment la semaine prochaine. Ça s'appelle Licorice Pizza. C'est le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Ça va ouvrir l'année en fanfare. C'est une sorte de comédie adolescente, comédie romantique. Pour moi, c'est un portrait déguisé de Charline Roux. C'est l'histoire d'une jeune fille absolument irrésistible et qui casse la gueule à des mecs. C'est vraiment Charline Roux. C'est avec Alana Haim. C'est merveilleux. On y croise Bradley Cooper, on y croise Sean Penn. Je vous ai mis un petit extrait.
I really want to see my boobs.
Can I touch them?
See you tomorrow.
J'ai jamais proposé ça à qui que ce soit.
Mentez, Charline. Licorice Pizza en salle.
Celui-là, je l'attends
le 5
avec
janvier.
Impatience. Merci, merci infiniment, Ronan. Merci d'être venu nous voir, nous qui sommes encore en 2021. Eh oui.
Vous allez voir 2022, c'est formidable. Que vous.
Jean Van Damme, dans la suite de Pop, nous allons parler de.
On n'a plus de Wi-Fi maintenant.
Ah. Et rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies.
Tu vides ton bureau et tu quittes tes fonctions demain à 9h.
Yo! 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 Yo du robinet!
Nous allons parler donc de la série Borgen, du film Parasite, du livre L'Anomalie, du Grand Jojo et de Pop Culture. Et évidemment, tout ça, ce sera juste après Nouvelle-Orléans. C'est un morceau de La Femme.
J'ai tout laissé derrière moi, poursuivre mon étoile, je n'oublie pas.
y restera pour l'éternité. Pourquoi tant de peine et pourquoi je n'ai pas eu de peine? La vie m'a causé quelques problèmes, mais j'ai pris le large et maintenant, dans la nuit, je pars et je quitte la maison. Et je laisse derrière moi un peu d'espoir et quelques chansons. Et quelques chansons. Je retourne à Nouvelle-Orléans, tout est incertain. Je repasserai devant ma maison, je repenserai à maman. Maman, maintenant je suis grand et j'ai mes propres ailes. Si tu me voyais, tu serais fière, mais tu n'es plus avec moi sur cette terre.
Nouvelle-Orléans, la femme, bien entendu. Vous écoutez Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors cette bulle de BD nous rappelle que nous sommes avec un grand nom de la BD, Jean Van Ham. Rien à voir avec Jean-Claude Van Damme si vous prenez l'émission en route. Mais faisons un grand écart tout de même avec votre popliste, Monsieur Van Ham. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Commençons par le livre. Ce livre, c'est L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. Charline, qu'est-ce qu'on peut apprendre de neuf?
Alors Blake, père de famille mais aussi tueur à gages, Slim Boy, pop star nigérienne qui vit dans le mensonge, Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles, ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte, tous voyagent à bord d'un vol Paris-New York en 2021, vol à bord duquel il va se produire une légère anomalie.
Tiens, il y en a un qui s'appelle Blake, c'est bizarre. Jean Van Ham, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît?
Je peux vous en lire une phrase qui ne résume peut-être pas l'essentiel, je dirais, du côté complètement farfelu de cette histoire. Je n'ai pas l'habitude de lire des Goncourt, mais là j'ai vraiment accroché. Alors, un digne, soyons clairs, assourdit l'alerte d'un mail. Elle lit le prénom d'André et soupire. Elle est en colère, moins parce qu'il insiste que parce qu'il sait qu'il ne devrait pas insister et qu'il ne peut s'en empêcher. Comment peut-il être aussi intelligent et aussi fragile à la fois? C'est tout moi ça. Hein. Mais l'amour, c'est ne pas pouvoir empêcher le cœur de piétiner l'intelligence.
Extrait de L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, lu par Jean Van Ham, qu'il a choisi comme son livre de chevet du moment. C'est la première fois donc que vous lisez un Goncourt, vous n'avez pas l'habitude de lire des Goncourt. Pourquoi est-ce qu'il vous a tapé dans l'œil celui-là?
Parce que quelqu'un m'a dit, écoute, je sais que tu lis pas toujours les Goncourt, surtout quand ils sont trop épais, mais là, franchement, ça vaut le coup. C'est un peu dans la note de ce que tu aimes, c'est-à-dire, c'est une espèce de science-fiction, mais complètement aberrante, mais il a presque du mal à tenir, à rester dans les rails, tellement il s'évade de tous les côtés. C'est presque impossible de résumer l'histoire ici. Et c'est tombé au moment, mais ça, je pourrais peut-être l'expliquer, mais ce n'est pas le moment. Je suis dans une période où je relis beaucoup. Pourquoi Je trouve que dans les dernières années qui me restent à vivre, j'ai envie de retrouver le plaisir de bouquins que j'avais bien aimés. Et voilà. Et, mais là, cette anomalie, ce que je trouve dans les livres actuels, on parle beaucoup de vie malheureuse. Il y a surtout dans les romans féminins, il faut dire. J'en ai lu quand même deux ou trois. Et on a l'impression, et c'est probablement vrai, que la vie d'une femme n'est pas très rigolote ces années-ci. Est-ce que c'était comme ça dans le passé? Je n'en sais rien. Mais c'est parfois assez dur à lire et pas à comprendre, mais ça tourne un petit peu en rond pour le moment.
Bon, L'Anomalie, donc, le livre d'Hervé Le Tellier. Jean Van Damme, vous adorez le cinéma, mais vous n'y êtes pas allé depuis quelques mois. Cependant, le meilleur film que vous avez vu depuis ces dernières années, c'est Parasite. C'est un film de 2019, réalisé par Bong Joon-ho. Charline, c'était qui ces Parasites ?
Toute la famille de Ki-taek est au chômage et lorgne fortement le train de vie de la richissime famille d'à côté, les Park, et un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park, et je n'en dirai pas plus pour ne rien spoiler.
Putain, la voisine a mis un mot de passe à son réseau.
On n'a plus de Wi-Fi maintenant.
Ah, et
rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies.
Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir, tes parents, en tout cas. Ils ont l'air en forme.
Oui, mais sans boulot.
Tu vois cette fille ? Tu vas devenir son nouveau prof d'anglais.
Mais j'ai zéro diplôme. Je comprends pas pourquoi t'as loupé le concours d'entrée aux Beaux-Arts.
Oh, ferme-la.
S'il y avait un Oxford des faussaires, ta sœur serait major de promo.
Parasite de Bong Joon-ho. Alors,
écoutez, c'est d'un humour tout à fait inattendu. Ouais. Bon, il se fait que ma femme aime beaucoup les films ethniques.
Ouais.
Bon, dès que c'est sénégalais, dès que c'est moldo-slovaque, elle s'y précipite. Donc, on a été voir ce film coréen et c'est... Bon, j'avais lu la critique qui était excellente, mais qu'est-ce que c'est drôle. C'est drôle sans vouloir l'être. Enfin, je sais pas comment expliquer.
Il y a une bascule
on n'essaye pas
ouais.
d'être drôle.
Ouais.
Ce l'est ouais. simplement par les situations. Mmh. C'est vraiment de l'humour. Mmh. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'esprit comme certains films français, faut l'avouer. Et donc, c'est certainement mon meilleur souvenir cinématographique de ces derniers temps.
Très bien, Jean Van Damme, nous vous avons aussi demandé de choisir une série, mais nous avez avoué ne jamais regarder, à l'exception de Borgen.
Brigitte Nyborg est une femme politique qui a permis à son parti d'obtenir une victoire écrasante. Elle doit maintenant répondre aux deux plus importantes questions de sa vie, à savoir comment utiliser au mieux cette majorité et jusqu'où peut-on aller pour obtenir le pouvoir.
J'ai une info. Quelque chose qui pourrait amener la bonne personne à être Premier ministre. En s'y prenant bien.
De ça, l'art c'est seul beau. Une petite facture. Une facture qui prouve que le Premier ministre a purement et simplement couvert sa femme de cadeaux pour 9 680 € aux frais de l'État.
Tu vides ton bureau et tu quittes tes fonctions demain à 9h.
Borgen. Alors, vous n'êtes pas le premier, Jean Van Damme, à nous dire à ce micro que vous regardez peu ou rarement des séries. Et je le comprends très bien parce que c'est une activité extrêmement chronophage. Mais Borgen trouve grâce à vos yeux. Alors pourquoi cette série-là ?
Pour une raison extrêmement simple. C'est parce que je l'ai reçue en DVD, offert par ma femme pour mon anniversaire, que je pouvais donc on pouvait donc la regarder quand on voulait. Ouais. Mais non, les séries, c'est embêtant quelque part si on y prend goût. Ouais.
Et que ça se passe
le mardi soir. Mmh. Et tous les mardis soirs, on nous invite à dîner. On dit, ah non, je suis désolé, on reste à la maison parce que c'est le troisième épisode, machin, truc. Non. Il y a des séries qui, paraît-il, sont prenantes. Et, un de mes éditeurs m'a offert une série de séries en disque. Espérant que je m'en inspire, ce qui n'est pas mon habitude, mais enfin, quoi, quand même. Et que je regarde pas, parce que ma femme n'aime pas les séries américaines et je
elle
ne regarde
faire des
pas
séries ethniques.
Mais expliquez-moi une chose, psychologiquement, pourquoi est-ce que j'ai des remords d'aller au cinéma l'après-midi ou de regarder la télévision l'après-midi comme quand j'étais à l'école
ou ça, je me demande bien.
Mais c'était incroyable.
Mais non, pourquoi des remords ?
Mais je ne comprends pas. J'ai l'impression de sécher les cours, de brosser, comme on dit en belge.
De brosser.
On brosse les cours en Belgique.
Les cours,
vous les séchez.
C'est ce qu'on appelle l'école buissonnière.
Et j'ai l'impression de sécher les cours et d'être un, voilà. Et si je regarde la télé l'après-midi, c'est pareil, alors que je pourrais regarder la télé parce que c'est une source d'inspiration pour moi.
Absolument.
Comme le reste, évidemment. Donc il y a quelque chose que je comprends pas. Je devrais voir un psy.
Pour la chanson, vous nous avez confié ne pas en écouter, sauf accidentellement à la radio, entre deux infos. En revanche, je sais que vous n'aimez pas du tout Stromae. Rassurez-vous, nous n'allons pas diffuser de Stromae, mais à la place, un morceau du Grand Jojo. cette légende belge de la chanson populaire que vous appréciez, qui nous a quittés il y a quelques semaines.
Mais voilà, il nous a quittés, c'est pour ça que je pense à lui. Moi, la chanson, c'était Brel, c'était Brassens.
Ouais, ouais.
Voilà, ça, c'était des vraies chansons.
Mmh. Bon.
Et bon, pourquoi le grand Jojo? Parce que, un, il est mort tout récemment.
Le 1er décembre.
Et deux, parce que, bon, il faisait des chansons de fête. C'est des chansons. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Bon, c'est simple, alors, c'est entraînant.
Mais,
c'est pas de la grande musique. Ça vous apporte simplement de l'ambiance.
Eh bien, je vous propose Plein comme une andouille. C'est un extrait de l'album Tournée Générale, Le Grand Jojo.
Ah!
Yo du robinet, yo, 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 yo du robinet.
En revenant du match Anderlecht Standard, on est resté collé à un comptoir.
Comme on avait perdu, le match était foutu, on a bu pour chasser le cafard.
Oui, mais quelqu'un a dit, le sporting c'est fini, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai bondi.
Le mec qui avait dit ça, a vu que ça tournait mal, a dit je paye une tournée générale.
Aïe aïe aïe, oui oui oui, plein comme une andouille. L'eau du robinet c'est pour les grenouilles. Encore un petit verre car on est en vadrouille. Aïe aïe aïe, oui oui, plein comme une andouille.
Après une demi-heure, on est parti ailleurs dans un bistrot, juste en face de la gare.
Une fille était au bar, un air un peu bizarre, avec des yeux comme des antibrouillards.
Et avec sa copine qui s'appelait Joséphine, on a vidé 3-4 bouteilles de gin.
Au moment de payer, de sortir ses galettes, on s'est caché dans les water closets.
Aïe aïe aïe, oui oui oui, plein comme une andouille. L'eau du robinet c'est pour les grenouilles. Encore un petit verre car on est en vadrouille. Aïe aïe aïe, oui oui oui, plein comme une andouille.
Hey grand, t'as de l'argent sur toi?
15 euros.
Quoi? 15 euros? Mais on a au moins pour 500 balles ici.
Quoi? 500 patates? Est-ce que c'est toi qui vas leur dire qu'on n'a pas un radis?
Moi, à ton avis, dis-le toi. Les femmes, c'est ton bazar, hein,
aïe, 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 oui, 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 plein comme une andouille. L'eau du robinet, c'est pour les grenouilles. Encore un petit verre, car on est en vadrouille. Aïe, 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 oui, 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 plein comme une andouille.
Madame, il y a un petit problème ici. On est deux pauvres artistes qui voulaient se faire un déjeuner. Et on voulait vous demander si on pouvait payer avec deux chèques repas. Qu'est-ce que vous dites? Comment va ma sœur? Bien. Bien, merci.
Elle a souvent pas bien compris.
Aïe, aïe, oui, 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 plein comme une lentouille. L'eau du robinet, c'est pour les grenouilles. Encore un petit verre, car on est en vadrouille. Aïe, 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 oui, oui, plein comme une lentouille.
Tout ça s'est arrangé, vite hors de ses cafés. Si on court vite, on sera derrière le coin.
On se croyait peinard quand un grand malabar nous a foutu son poing sur le cigare.
Et moi j'ai encaissé un coup de poing sur le nez.
Et nos fausses dents jouaient les castagnettes.
Yo, 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 yo du robinet. Yo, 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 yo du robinet. Aïe, 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 oui, 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 plein comme une andouille. L'eau du robinet, c'est pour les grenouilles. Encore un petit verre, car on est en vadrouille. Aïe, 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 oui, oui, plein comme une andouille. Yo, 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 yo du robinet. Yo, 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 yo du robinet. Aïe, 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 oui, 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 plein comme une andouille. L'eau du robinet, c'est pour les grenouilles. Encore un petit verre, car on est en vadrouille. Aïe, 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 oui, oui, plein comme une andouille. Yo, 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 yo du robinet. Aïe, 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 oui, 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 plein comme une andouille. Yo, 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 yo du robinet. Aïe, 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 oui, 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 plein comme une andouille.
Grand Jojo, c'était Plein comme une andouille, featuring Jean-Luc Fonck. C'est un morceau qui fait plaisir à Jean Van Hamme, notre invité aujourd'hui. Merci. Merci mon cher Jean Van Hamme d'être venu nous rendre visite aujourd'hui et d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je rappelle que Blake et Mortimer, le dernier espadon, est édité chez Dargo. Il est plus que recommandé par Pop. Merci Charline.
Merci à vous.
À demain, merci Jean Van Hamme.
Merci de votre invitation.
Et merci à toute l'équipe de Pop et à Charles Westrelin qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nouveau numéro de Pop Podcast. Nous parlerons d'histoire pour enfants avec les créateurs du podcast. Encore une histoire. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop.